VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Abidjan, midi à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Mali, forte tension dans le centre du pays. Après les localités de Goundam, Léré et Bintagungu, les rebelles ont attaqué mardi le cercle de Ténékoum dans la région de Mopti, d'où une psychose de peur dans les localités vulnérables et des appels au calme et à la fin des combats. À quelques jours de la signature de l'accord de paix d'Alger, le 15 mai à Bamako, document que les rebelles de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, refusent toujours de signer, les Maliens se demandent de plus en plus si leur pays peut enfin recouvrer la stabilité. Un début de réponse avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Signera, signera pas. La question est sur toutes les lèvres à Bamako. Beaucoup de Maliens pensent que la CMA ne signera pas l'accord d'Alger. D'autres pensent que les acquis vers la paix doivent être consolidés. Colonel Hassan Agmedi du Front populaire de l'Azawad.
Il est très important aujourd'hui que chacun comprenne que le plus brave, c'est celui qui a pu aider ce pays à consolider ce qu'il a acquis. Le plus intelligent, c'est celui qui revient à se dire la vérité lui-même en faisant comprendre que les Maliens n'ont plus besoin de se voir périr pour des futilités. Que les Maliens arrêtent de se provoquer, qu'ils arrêtent de se pourchasser, c'est le moment d'amener chacun son apport à la construction de ce pays. C'est le moment d'avoir le courage de s'asseoir et de dire ce qu'on pense.
Le chef de la tribu Kail Antassar est en colère. Il ne comprend pas pourquoi les rebelles s'attaquent aux populations du cercle de Goundam. Abdulmajib Ag Mohamed dit Nasser.
J'ai dit aux gens de la CMA que ce n'est pas Bintagungu qui a attaqué Menaka. Ce n'est pas Léré qui a attaqué Menaka. Ce n'est pas Goundam qui a attaqué Léré. C'est Gacha qui a attaqué Menaka. S'ils sont hommes, ils n'ont qu'à aller voir Menaka et affronter les gens de Gacha au lieu de s'attaquer à des pauvres populations de Bintagungu, de Léré, là où leurs parents viennent se ravitailler tous les jours. S'ils sont hommes, mais non qu'à aller voir les gens de Gacha, ça ne sert à rien quoi, il faut qu'ils arrêtent. Nous, on veut la paix, parce qu'on sait qu'il n'y aura rien dans ce pays-là s'il n'y a pas de paix.
En tout cas, le combat continue sur le terrain. C'est mardi 5 avril, les rebelles ont attaqué le cercle de Ténékoum. Le bilan est d'un mort et 3 blessés du côté des militaires maliens, alors que les rebelles ont perdu 10 hommes et plusieurs blessés. D'importants matériels de guerre ont été saisis par les forces armées et de sécurité du Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En RCA, la coordination des 22 partis politiques au forum de Bangui, dirigé par Joseph Bendouga, s'insurge contre le refus du présidium de laisser les leaders politiques s'exprimer librement. D'où la menace du groupe de se retirer des assises. On écoute Joseph Bendouga.
Cette crise est hautement politique, mais les partis politiques ne peuvent pas être les dindons de la farce pour que le présidium du forum puisse leur refuser de s'exprimer. Les plateformes, les confessions religieuses se sont exprimées 2 fois. Les femmes, la jeunesse, tout ça ont eu à intervenir. Or, les acteurs politiques qui, dès que ce forum-là cessera, iront aux élections, ce sera l'un de ces acteurs politiques-là qui sera président de la République élu, qui aura la légitimité de conduire le peuple centrafricain à un avenir meilleur. Malheureusement, force est de constater que les partis politiques sont relégués au second plan. On nous donne l'exemple du Rwanda. La République centrafricaine n'est pas le Rwanda. Le cas centrafricain est typique. Qu'on laisse la parole aux centrafricains s'exprimer librement afin que de cette expression libre émanant du fond de leur cœur puisse jaillir la flamme de l'espoir, l'avenir de la République centrafricaine, afin qu'on puisse aller à des élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et démocratiques.
Joseph Bendouga, président de la coordination des partis politiques au forum de Bangui. RDC, la MONUSCO, la mission onusienne sur place, a envoyé aujourd'hui des renforts dans le territoire de Beni, dans l'est du pays, au lendemain de la mort de 2 casques bleus tanzaniens dans une embuscade. Objectif, selon l'AFP, prendre des mesures énergiques contre les rebelles ougandais des ADF, auteurs de cette attaque contre les troupes onusiennes dans la province du Nord Kivu.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burundi, discussion informelle entre le gouvernement et les opposants à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza sous la pression internationale, selon l'AFP. Les participants cherchent une sortie de crise alors que la Cour constitutionnelle vient de statuer que le renouvellement du mandat présidentiel pour 5 ans au suffrage universel direct n'est pas contraire à la Constitution. Idriss Fall a joint à Bujumbura Charles Ndagi Djimana, président de la Cour constitutionnelle du Burundi.
Tout d'abord, la Cour n'a pas été saisie d'une question relative à la candidature. Elle a plutôt été saisie d'une interprétation des articles 96 et 302 de la Constitution. Nous avons interprété les dispositions de la Constitution qui nous avaient été soumises, donc l'article 96 et 302.
Et qu'est-ce que ça veut dire?
Comme l'a dit la Cour, ça veut dire que les mandats qui sont prévus au niveau de l'article 96 n'ont rien à voir avec le mandat qu'on retrouve à l'article 302.
Quelle est la différence donc? C'est parce qu'il n'a pas été élu au suffrage universel direct?
Non, c'est pas ça. La différence, c'est que l'interprétation qu'a donnée la Cour constitutionnelle, c'est que l'article 302 instituait un mandat spécial qui était tout à fait différent des mandats qui sont prévus à l'article 96.
Mais apparemment, les accords d'Arusha en fait, disaient que le président n'a droit qu'à deux mandats.
Alors, je vous recommande de lire tout l'arrêt de la Cour, parce que la Cour est revenue longuement sur les accords d'Arusha. Elle a expliqué que, évidemment, les accords d'Arusha, l'esprit et la lettre des accords d'Arusha étaient de mettre sur place deux mandats seulement, que personne ne pouvait faire plus de deux mandats. Et ça a été reconnu dans l'arrêt de la Cour. Et la Cour a constaté que le constituant avait mal repris les accords d'Arusha et en instaura un autre mandat qui n'était pas prévu par les accords d'Arusha.
Et que dit la constitution du Burundi alors sur la limitation des mandats?
Je vous renvoie toujours à l'article 96 qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et alors, à côté de ça, nous avons un autre article qui se trouve au niveau du titre relatif aux dispositions exceptionnelles relatives à la première période de post-transition qui, aux yeux de la Cour, crée un mandat spécial qui est détaché de l'article 96.
John Kerry dit que cette nouvelle candidature, c'est une violation de la Constitution du Burundi.
Ah, John Kerry, le secrétaire d'État américain, lui, il est diplomate. Je ne crois pas qu'il puisse décider en lieu et place de la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle du Burundi est chargé de juger les affaires constitutionnelles du Burundi. Donc, ce qu'il a dit, c'est son opinion.
Charles Ndagijimana, président de la Cour constitutionnelle du Burundi. Le secrétaire d'État américain John Kerry est aujourd'hui à Djibouti, point final de sa tournée en Afrique de l'Est et dans la Corne de l'Afrique, qu'il a d'abord conduit au Kenya, puis en Somalie. Pour un bilan de cette tournée, Timothée Donangmaï a joint Walid Fares de la National Defense University de Washington, qui commence par la visite surprise de M. Kerry à Mogadiscio.
Les États-Unis ont développé des politiques d'appui au gouvernement somalien contre les radicaux, contre Al-Qaïda et les Shabab depuis des années. Mais c'est la première fois qu'un officiel de ce niveau-là arrive en Somalie. C'est un signe de solidarité avec le gouvernement et le peuple somalien contre les violences, surtout après ce qui s'est passé au Kenya il y a quelques semaines.
Quel est le bilan de l'appui américain aux efforts contre Al-Shabaab en Somalie?
Vous voyez, il y a une politique de l'administration qui est aussi appuyée par le Congrès de soutenir le gouvernement somalien, mais aussi le gouvernement de la région, contre l'expansion d'Al-Qaïda, qui en fait est Al-Shabaab dans la région, pas seulement au point de vue militaire, mais aussi au point de vue social, économique et surtout diplomatique, point de vue africain.
Au programme de cette visite africaine du secrétaire d'État Kerry, le Kenya donc, mais aussi Djibouti, quelle est l'importance stratégique de ces pays pour les États-Unis?
Vous voyez, c'est toute la région qui s'étire de Djibouti, où les États-Unis ont un intérêt stratégique et une présence militaire, jusqu'au Kenya et les pays avoisinants. C'est une région qui a été menacée, d'une part, par les Shabab, mais aussi qui a été soumise à des épreuves de guerre civile et de tensions internes. Alors, Washington essaye de démontrer une solidarité avec ses gouvernements africains, mais au-delà des gouvernements, aussi de lancer un appel aux sociétés civiles de cette région-là. Alors, c'est un voyage qui est très important, mais ce n'est que le début.
Lors de son passage au Kenya, le secrétaire d'État John Kerry a également entamé des préparatifs pour la visite du président Barack Obama. Quelle va être la portée de cette visite du chef de l'exécutif?
Ça va être une visite historique. Le président Obama qui arrive sur sa terre ancestrale, mais aussi cela nous donne un peu une vue sur le rôle qu'il va jouer après la fin du mandat présidentiel.
Walid Fares de la National Defense University de Washington. Et pour terminer, visite de l'attorney général au ministre de la Justice, Loretta Lynch, hier à Baltimore dans l'état du Maryland. Elle est venue encourager la police à mieux faire son travail pour améliorer ses relations avec la communauté noire américaine.
Soyez au cœur de l'info.